En 1917, lorsque la révolution s'est étendue au travers de la Chine, l'Église adventiste était bien implantée dans ce pays. Elle y avait de nombreuses écoles, des hôpitaux, des cliniques, une structure solide, une organisation bien implantée et complexe. L'arrivée du communisme dans ce pays n'a pas permis à l'Église de continuer de fonctionner. Ses bureaux ont été fermés, les écoles, les hôpitaux ont été confisqués. Et la structure de l'Église n'a pas été autorisée. On a pensé alors que l'Église était morte en Chine. Les années ont passé sans que les hôpitaux, sans que les écoles, sans que la structure administrative puisse soutenir l'Église. Et on ne savait pas combien de frères et sœurs étaient en Chine. Mais après de nombreuses années, on s'est rendu compte que l'Église était encore vivante. Elle n'était pas visible. Elle n'était pas visible au travers des écoles, des hôpitaux, elle n'était pas visible au travers des services publics que l'Église peut rendre, elle n'était pas visible au travers de bâtiments administratifs imposants. Mais elle était vivante, vivante dans le cœur de tous les frères et sœurs qui vivaient leur foi au quotidien et qui rendaient témoignage, au point que un nombre incalculable de baptêmes se faisait en secret, ajoutant ainsi au corps de Christ un grand nombre de ceux qui croyaient en son nom. L'Église était vivante. Ainsi, lorsqu'on parle de l'Église, on ne sait pas exactement, juste en employant le mot « Église », de quoi nous parlons. L'Église, elle est multiple. L'Église, c'est beaucoup de choses. C'est un bâtiment, mais ce sont aussi des gens. Et ce sont des gens, non seulement dans l'Église locale, mais ce sont des gens partout dans le monde. L'Église, c'est une institution très complexe. C'est une institution très riche que Dieu a créé. Et lorsque l'on lit les passages bibliques relatifs à l'Église, on se rend compte que l'Église est définie dans la Bible par des termes souvent contradictoires, par des oppositions, pour montrer à quel point elle est riche et complexe en même temps. Et ce matin, permettez que je relève avec vous sept caractéristiques contradictoires que l'on trouve dans les Écritures concernant l'Église et qui nous permettent peut-être de comprendre que l'Église est avant tout un mystère, que l'Église, c'est seulement Jésus qui en a la recette, que l'Église, c'est seulement Jésus qui peut la construire. La première caractéristique de l'Église que j'aimerais relever, c'est que l'Église, elle est humaine et divine en même temps. Regardez avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, j'aimerais lire deux versets, le verset 13 et le verset 14, qui sont empruntés à une lettre que Jésus envoie à l'Église de Pergame. Apocalypse chapitre 2, nous lirons les versets 13 et 14. « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. » Dans ce passage, Jésus dit à son Église, « Voilà, il y a là le trône de Satan. » Ce n'est pas exactement un compliment de la part de Jésus de dire « Le trône de Satan est au milieu de toi. » Mais en même temps, il lui dit, « Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi et il y a parmi toi des témoins fidèles, fidèles jusqu'à la mort. » L'Église, elle a cette faiblesse humaine immense et elle a cette force divine immense. Deux notions contradictoires et pourtant qui sont présentes dans l'Église. L'Église est humaine et l'Église est divine. Alors, on peut chercher à savoir s'il est divino-humaine ou humano-divine et vous savez que les théologiens se sont battus pendant des siècles sur ce sujet-là en rapport avec Jésus pour savoir s'il était un peu plus Dieu ou s'il était un peu plus homme, ayant tellement de difficultés à reconnaître l'enseignement clair des Écritures selon lequel il est parfaitement les deux. Et l'Église est le reflet de ce qu'est Jésus. L'Église a cette dimension humaine de grande faiblesse, cette dimension divine de grande force. Finalement, l'Église, c'est une incarnation, comme Jésus, avec les mêmes caractéristiques. Mais ce n'est pas une bête à deux têtes. Ce n'est pas une bête apocalyptique avec une tête divine et une tête humaine. Il n'y a qu'une seule tête à l'Église, c'est Jésus, et qui a justement, lui aussi, ces deux caractéristiques d'être parfaitement humain et d'être parfaitement divin. C'est Jésus au moment de la transfiguration, et puis c'est Jésus qui est fatigué. C'est Jésus qui a faim. C'est Jésus qui a besoin de repos. L'Église, elle est humaine et elle est divine en même temps. La deuxième caractéristique de l'Église, c'est qu'elle est une et elle est plurielle aussi. Regardez ce passage avec moi dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17. Dans Jean chapitre 17 se trouve le texte de cette prière de Jésus, où Jésus s'adresse à son Père peu avant son sacrifice et remet entre ses mains ses disciples, demandant à Dieu de leur donner la force de rester unis. Et j'aimerais lire dans Jean chapitre 17 les versets 20 et 21. Jésus dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus prie pour ses disciples qui sont là avec lui, ses disciples peut-être qui sont en train de dormir au lieu de veiller. Mais il dit, je ne te prie pas seulement pour ces 12, je te prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire finalement, vous et moi, et tous ceux qui dans le monde ont accepté cette parole de Jésus-Christ comme étant celle qui les conduit à la vie éternelle. L'Église, elle est un et elle est plurielle. Dieu a cette magie de faire de plusieurs un seul. Cette magie de faire de gens comme Pierre, Jacques et Jean un seul groupe. Et Dieu a aussi ce pouvoir de faire de vous et de moi un seul corps. Quelque chose d'extraordinaire. Pour nous aider à le comprendre, Jésus va utiliser l'image de la famille. Cette image va être prise par les apôtres. On va la retrouver dans l'Apocalypse en rapport avec l'agneau et puis l'Église. L'apôtre Paul va en parler aussi dans l'Épître aux Éphésiens où se trouve ce texte que vous connaissez bien et que j'aimerais relire avec vous, Éphésiens chapitre 5, où il dit au verset 23 « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Et un petit peu plus loin, au verset 31, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dieu est capable de faire de deux un. Il est capable de faire de tous ses enfants dans le monde un corps, son Église. L'Église est une, mais elle est plusieurs. Plusieurs dans chacun de ceux qui la composent. La troisième caractéristique de l'Église, c'est qu'elle est locale et elle est universelle. Regardez par exemple ce passage, et c'est un exemple parmi d'autres que l'on pourrait prendre, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1er. C'est là l'introduction que l'apôtre Paul fait à cette lettre, et j'aimerais la relire avec vous. Elle contient cette tension entre l'Église locale et l'Église universelle. Verset 1er dit ceci, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Cette lettre est adressée aux frères et sœurs de l'Église de Corinthe, dit-il, et à tous ceux, en quelque lieu qu'ils soient, qui invoquent aussi le nom du Seigneur Jésus. L'Église est locale, mais elle est aussi universelle. Dans ce sens, tous ceux qui sont réunis par cette bienheureuse espérance font partie de cette famille mondiale. D'ailleurs, que vous alliez à Moscou, à Singapour, à Stockholm ou à Danvers. vous y retrouverez ces frères et sœurs qui ont la même espérance, qui ont la même foi et qui eux aussi font partie de l'Église. Dans le livre des Actes, au chapitre 15, se trouvent racontées les difficultés que l'Église a rencontrées, l'Église primitive, où il y avait un désaccord sur la compréhension de la manière d'agir dans le cadre de l'évangélisation. Et on retrouve dans ce chapitre d'Actes 15 la force de l'Église est locale et universelle. Actes chapitre 15, j'aimerais lire les premiers versets. Il est écrit ceci. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. L'Église locale a une difficulté. Que fait-on ? On rassemble des délégués de toutes les églises, et l'Église globale va traiter la question pour savoir dans quel sens il faut aller. L'Église est locale ? Et elle est universelle en même temps. Et l'Église locale a besoin de la grande Église. Et la grande Église est constituée de toutes les petites églises qui couvrent le monde et qui, dans ce jour de sabbat, se sont aussi rassemblées pour adorer comme vous et comme moi. L'Église, elle est universelle, elle est locale. Si vous allez sabbat prochain aux Antipodes, faites un trou et descendez, vous vous retrouverez quelque part en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde. Vous y trouverez, sabbat matin, des gens qui vous appelleront frères et sœurs, qui ont la même espérance, qui vont étudier le sabbat matin le même sujet de l'école du sabbat avec vous, et qui attendent eux aussi le retour de Jésus. C'est une grâce de pouvoir faire partie non seulement de cette église locale, mais de cette grande église qui est la famille de Dieu, qui fait le tour du monde, et qui nous donne une dimension de la puissance de sa parole. La parole de Dieu qui a touché nos cœurs et qui nous a amenés, nous, à rentrer dans l'église locale où nous sommes. C'est cette même parole qui a amené des frères et sœurs à l'autre bout du monde, à la même foi, à la même espérance, au même Sauveur, dans l'attente de son retour. L'église est locale, l'église est universelle. La quatrième caractéristique de l'église, c'est qu'elle est visible et invisible à la fois. Regardez par exemple ce passage qui débute l'épître de Paul aux Philippiens. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er. Nous y voyons là une évocation de l'Église visible à laquelle Paul s'adresse par écrit. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, il dit ceci. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. L'entête de cette lettre est très claire. Il s'adresse aux frères et sœurs de l'église de Philippe et aux dirigeants, à ceux qui sont évêques, à ceux qui sont diacres, à ceux qui conduisent ce troupeau, pour reprendre une expression biblique. Elle est visible, cette église. Elle a une adresse dans la ville de Philippe, comme l'église adventiste de Granby qui a une adresse dans cette ville. Mais dans l'épître aux Romains, écrite par le même auteur, au chapitre 2, nous trouvons quelque chose d'intéressant où l'apôtre ici parle d'une autre église. Épître aux Romains, chapitre 2, j'aimerais lire le verset 14 où l'apôtre Paul parle ici des païens, c'est-à-dire de tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, de sa parole, de Jésus. Au verset 14, il est écrit ceci. « Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Ces gens n'ont jamais entendu parler de ce que la parole de Dieu révèle. Cependant, Dieu a accès à leur cœur par la conscience, que la Bible va appeler le Saint-Esprit par ailleurs, et qui leur fait comprendre dans ce qu'ils font ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ont par conséquent, sans même connaître la parole de Dieu, la capacité de choisir en réponse à cette parole de Dieu qui parle à leur cœur. Certains d'entre eux vont répondre favorablement à cette petite voix qui parle au fond de leur cœur. Et c'est de cette manière que ces gens-là, sans connaître Dieu, seront eux aussi des enfants de Dieu. Vous vous souvenez que Jésus avait dit qu'il avait encore de nombreuses brebis dispersées, qui n'étaient pas encore dans cette bergerie, mais il avait l'intention de les rassembler, de sorte qu'il y ait un troupeau et un seul berger. Il y a, je crois, dans le monde aujourd'hui, de nombreuses brebis dispersées qui appartiennent au Seigneur, et qu'il voudrait amener dans sa bergerie, amener à la connaissance de la vérité, parce que seule la vérité peut nous affranchir. L'erreur n'a jamais délivré personne. Et c'est la raison pour laquelle l'Église a cette tâche essentielle d'apporter la vérité pour que la vérité nous conduise au salut. Ainsi, dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu promet de rassembler aussi ses brebis. Regardez avec moi dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 28, ce qui est écrit au verset 25. Ézéchiel chapitre 28, le verset 25 dit ceci. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël au milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur exprime son désir de rassembler tous ceux qui, de leur cœur, ont accepté Dieu comme leur Sauveur. Et il leur promet de leur donner ce pays promis. Non pas cette fois-ci une terre ici-bas, mais la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Il les rassemblera et dit-il, « Je manifesterai en eux ma sainteté aux yeux des nations. » Voilà l'objectif que le Seigneur a dans cette Église qui est visible et qui est en même temps invisible. Une Église visible et une Église invisible. Une Église qui se voit, dont on connaît l'adresse, mais une Église qui ne se voit pas. Et il y a dans cet endroit, comme partout dans le monde, des hommes et des femmes chez eux, qui prient, qui étudient la parole de Dieu, qui ne vont dans aucune église parce qu'ils ont été déçus par l'une, par l'autre et par la troisième à laquelle ils ont assisté. Mais il y a dans cet endroit, dans cette ville, comme dans toutes les villes du monde, des gens qui lèvent les yeux vers Dieu et qui soupirent, demandant une révélation de Dieu et de sa vérité et qui attendent d'être invités à rentrer dans le corps de Christ. Un jour, ces gens qui nous ont peut-être vus vivre et ont constaté que notre vie était en accord avec la parole de Dieu viendront frapper à notre porte et nous demanderont de leur donner le reste de l'histoire. Ces gens, peut-être que nous ne les connaissons pas, mais eux nous auront regardé derrière le rideau et ils verront, ils auront vu dans notre vie que notre vie est conséquente avec la parole de Dieu. Serons-nous prêts à leur donner le reste de l'histoire? Leur donner notre témoignage, pour que d'invisible et de caché, ils puissent, comme Nicodème et Joseph d'Arimathée, venir au plein jour, témoigner de leur confiance et de leur foi en Jésus-Christ. L'Église est visible, elle est aussi invisible. Ainsi, malgré sa faiblesse, l'Église reste, malgré tout, l'objet suprême de l'amour et de l'attention de Dieu. Et même si cette faiblesse s'étend au-delà de ce que nous souhaiterions parfois, le Seigneur, dans sa bonté, fait surabonder sa grâce. Nous en avons tous besoin. Nous sommes tous en mesure de la recevoir. Mais l'Église, si faible qu'elle est cependant encore l'Église de Dieu. La cinquième caractéristique de l'Église, c'est qu'elle est sainte et pécheresse en même temps. Regardez par exemple ce passage dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, j'aimerais lire les versets 2 à 4. C'est un passage extrait de cette lettre que Jésus adresse à l'Église de Sardes, où il dit « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec toi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Il y a dans ce passage les deux. Tes œuvres ne sont pas parfaites devant moi. Il y a un appel à la repentance, mais il y a en même temps parmi toi des hommes qui ne se sont pas souillés, qui marcheront en vêtements blancs. L'Église, elle est sainte, elle est pécheresse en même temps. Prenez par exemple ce passage qui se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Dans les tout premiers versets, dans l'introduction à cette épître, Paul parle d'une manière intéressante. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, dès le verset 1, il dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez remarqué, il parle ici de tous les frères et sœurs de l'Église de Corinthe, et dit à tous les saints qui sont dans l'Achaïe, qui est une région de la Grèce où se trouve cette ville. Lorsque vous lisez maintenant la suite de l'Épître aux Corinthiens, et si vous lisez la première, vous n'avez vraiment pas l'impression que les membres de cette Église sont des saints. En tout cas dans le sens courant du terme. Loin de là. Et pourtant, l'apôtre Paul s'adresse à eux comme les saints qui sont dans telle région. Non pas saints parce qu'ils ont atteint le sommet de la perfection avec une auréole qui fait d'eux des gens à honorer, à vénérer. Non, mais saints parce qu'ils sont mis à part. Saints parce qu'ils se sont mis à part en acceptant Jésus comme leur sauveur. Et la transformation de leur caractère est garantie par leur marche avec Dieu, ce sera la sainteté qu'ils vont acquérir par la grâce de Dieu dans leur marche quotidienne avec lui. Mais ils sont saints parce qu'ils ont mis à part. L'Église est sainte, mais elle est pécheresse en même temps. La Sainte Cène d'ailleurs nous rappelle cruellement la réalité de notre péché, pour lequel nous avons besoin du pardon de Dieu. Et dans le texte que vous connaissez bien, où il nous est raconté dans les Évangiles, comment Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il leur dit « Vous êtes purs, mais non pas tous. » Nous avons donc la possibilité, par la grâce de Dieu, d'être purs dans l'Église. Certains ne le sont pas. Ils font encore partie de l'Église, comme Judas faisait partie du groupe des disciples. Il y a cependant, dans cette Église, un appel à la repentance. Donc un appel à une marche en avant. Un appel à la transformation, à la sanctification, à laisser de côté ce qui nous empêche d'être ce que le Seigneur voudrait que nous soyons. Vous vous souvenez, dans cette parabole où Jésus raconte à quoi ressemble le royaume des cieux, il va présenter l'histoire d'un banquet, d'un homme qui prépare un grand festin et qui va inviter ses amis. Et vous vous souvenez comment ses amis invités d'honneur au dernier moment, vont décliner l'invitation parce que celui-ci est occupé à cela, parce que celui-ci est préoccupé par autre chose. Bref, finalement, aucun ne vient. Qui va venir dans la salle du festin? Eh bien, le maître va dire à ses serviteurs, va dans les rues et partout, et va chercher les aveugles, les boiteux, les estropiés, tous les infirmes, tous ces gens méprisés, tous ces gens malades, amenez-les dans la salle du banquet. En fait, ces boiteux, ces estropiés, ces malades de toutes sortes, c'est vous et moi. C'est vous et moi qui avons accepté, malgré notre faiblesse, malgré notre maladie du péché, de rentrer dans la salle du festin et de nous mettre sous l'influence de celui qui seul peut nous guérir, de nous mettre au bénéfice de celui qui seul peut nous revêtir de sa robe de justice. Nous sommes ces boiteux, ces estropiés, ces malades, nous sommes l'épouse. Et faisant allusion au chapitre 19 de l'Apocalypse, cette épouse qui est revêtue de fin lin. C'est l'objectif que le Seigneur a pour son Église et pour chacun d'entre nous, d'être cette Église qui, malgré son péché, est une Église sainte et irréprochable. Nous avons parfois ces sentiments contradictoires au-dedans de nous-mêmes, où nous retrouvons en nous à la fois les sentiments du pharisien et à la fois les sentiments du publicain, où nous avons l'impression d'être meilleurs que les autres et réflexion faite d'être pire que les autres, d'être saint d'un côté, mais pécheur pourtant de l'autre. La sixième caractéristique de l'Église, c'est que l'Église, elle est apostolique et elle est eschatologique. L'Église, elle est passée, mais elle est encore à venir. Lisons, voulez-vous, ce texte qui est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, où l'apôtre Paul repose clairement les fondements de l'Église. Éphésiens, chapitre 2, nous lirons dès le verset 19. Il est écrit ceci. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il y a là les bases de l'Église apostolique. Le fondement, le rocher, c'est Christ. Et puis, il y a le témoignage des apôtres, des prophètes, le témoignage des apôtres et des prophètes que nous avons dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Et sur la base de sa parole, l'Église est appuyée. C'est sa référence, la parole de Dieu. Jésus a construit son Église là-dessus. Mais l'Église perdure au travers du temps, au travers des siècles. Elle est encore là aujourd'hui. Et l'Église, elle est encore à venir. C'est ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, dans le texte auquel je faisais référence au chapitre 19 et que je voudrais lire avec vous, où il est dit, Apocalypse chapitre 19, au verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons gloire à Dieu, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » L'Église, elle est apostolique. Elle a été construite par Jésus et ses apôtres. Mais l'Église, elle est encore là à la fin des temps. Les caractéristiques de cette Église sont données dans l'Apocalypse. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus. L'Église, curieusement, elle est passée, mais elle est encore à venir. Et cependant, elle est présente, parce que nous sommes là aussi aujourd'hui. L'Église, elle a saisi cette bienheureuse espérance. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit « Nous sommes sauvés en espérance. Nous sommes sauvés, mais la réalisation parfaite de ce salut est encore à venir. » Si vous voulez, pour prendre une expression simple, nous avons le chèque, nous attendons le cash. Dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre dit « Quand Christ paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et pourtant, il nous est clairement dit « Celui qui a le Fils a la vie. » L'Église, par conséquent, elle est ancienne et puis elle est à venir. On a l'impression, dans un sens, que l'Église a vieilli sans avoir réussi à atteindre sa pleine maturité. L'Église est passée, l'Église est à venir encore. L'Église présente que nous sommes prépare l'Église à venir que le Seigneur voudrait voir en chacun d'entre nous et dans la génération suivante. Et je me pose la question si l'Église présente, s'appuyant sur la base apostolique, les bases solides que le Christ lui-même a posées, je me pose la question de savoir si l'Église présente que nous sommes à cette capacité de préparer véritablement l'Église de demain. Je ne dis pas le club de demain, l'Église de demain. L'Église qui sera debout lorsque Jésus reviendra. Finalement, la septième caractéristique de l'Église, c'est qu'elle est à la fois militante et triomphante. Regardons par exemple ce passage que vous connaissez dans l'Apocalypse au chapitre 7. J'aimerais lire avec vous les versets 9 et 10. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Voilà l'Église triomphante, l'Église qui a reçu la victoire. Mais cette Église-là, elle est aussi une Église militante. Et vous connaissez ce passage de l'Épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul va utiliser une image de l'époque pour faire comprendre que l'Église est encore au milieu de la bataille. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, nous lirons les versets 12 et 13. Il est écrit ceci. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » L'Église est encore au milieu du combat, mais, nous dit la parole de Dieu, elle a déjà reçu les gages de la victoire. Jésus dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Mais il dit aussi « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Montrant par là que nous sommes encore dans la guerre, nous sommes encore dans la lutte, même si la victoire nous est donnée par la grâce de Dieu. Ainsi, cette Église, même si elle est militante, encore en guerre, au milieu des combats, elle est aussi une Église victorieuse simplement parce que le Christ a obtenu la victoire et nous l'offre. C'est dire que pour chaque individu, cette promesse est aussi valable. Nous nous sentons sans aucun doute les uns et les autres beaucoup plus dans la guerre que sur le podium de la victoire. Et cependant, même si la vie se charge de placer devant nos yeux ce brouillard qui nous empêche de discerner la victoire à venir, il est essentiel pour nous de garder les yeux sur celui qui a la victoire et de savoir que malgré les conflits présents, malgré les difficultés et les épreuves que les uns et les autres traversent, la victoire est acquise en Jésus-Christ. Même si nous sommes des pécheurs. Ainsi, l'Église, c'est cette institution que le Seigneur a construite. Ce n'est pas seulement ce bâtiment, mais c'est cette famille qui répond à des caractéristiques très contradictoires et qui montre sa grandeur, qui montre sa richesse, qui montre sa force et qui montre aussi sa faiblesse. Lorsque Jésus parle du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Il parle de ces gens que nous sommes et qui sont appelés à faire partie de ce royaume. Et vous remarquerez en regardant les paraboles de Jésus, combien de fois Jésus utilise dans ses paraboles des ouvriers pour parler de nous. Des ouvriers de différentes sortes. Jamais il ne parle de locataires. Dans l'Église, nous sommes des ouvriers, pas des locataires. La mentalité du locataire est étrangère à la parole de Dieu. Le locataire, il vient, il utilise, il paye et il part. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, il se plaint au propriétaire et le propriétaire vient réparer. Et il paye et n'a de contrat à rendre à personne. Ce n'est pas la mentalité des Écritures. Si nous retrouvons en nous cette mentalité de locataire dans l'Église, nous savons par cela que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Le locataire, c'est celui qui se plaint toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui considère que ce n'est pas sa maison, que ce n'est pas sa mission et que le propriétaire a qu'à se débrouiller avec ça. Si nous retrouvons en nous un tant soit peu de cette mentalité, c'est que nous ne sommes pas dans la mentalité biblique de ceux qui font partie de l'Église. Nous sommes invités à être des héritiers, pas des touristes. Nous sommes invités à être des copropriétaires dans l'Église et pas des locataires. Ainsi, le Seigneur fait de nous et de chacun d'entre nous partie prenante de son royaume déjà déjà maintenant dans la famille de l'Église que nous sommes. J'aimerais qu'ensemble nous puissions comprendre ce qu'est l'Église et nous sentir motivés pour y apporter le meilleur de nous-mêmes, parce que l'Église, c'est avant tout là que se trouve aussi le Seigneur Jésus. Et j'aimerais, pour terminer, relire avec vous cet admirable passage écrit par l'apôtre Pierre dans sa première épître, au chapitre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà l'invitation que le Seigneur adresse à tous ceux qui l'ont reçue jusqu'à la fin des temps. Construire l'Église. Et j'ai conscience que nous la construirons dans la tension par laquelle elle est définie dans les Écritures. Nous construirons une Église qui est divine et humaine, qui est une et qui est plurielle, une Église locale et une Église universelle, une Église visible et une Église invisible, une Église sainte et une Église pécheresse, une Église passée et une Église à venir, une Église militante et une Église triomphante. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être chacun une pierre vivante de cette Église. Amen.